Philosophie première par le Père Philippe à Saint-Judas le 27 juin 90.
Une finalité. Par rapport à l'ami, elle semble être condition sine qua non. Il est évident que pour nous, la finalité première que nous atteignons, c'est bien l'ami, c'est-à-dire la personne humaine que nous considérons comme ami. La vérité est finalité, et bien fin de notre vie spirituelle, de notre intelligence. Mais, j'allais dire, une fin que nous n'atteignons jamais totalement tant que nous sommes sur la terre, tant que nous sommes pèlerins, parce que on ne peut jamais dire qu'on a atteint en plénitude la vérité. Remarquez qu'il y a quelque chose d'analogue pour l'ami. Je ne peux jamais dire que j'aime pleinement l'ami, je l'aime autant que je peux, mais je ne l'aime pas pleinement. Il me dépasse toujours. La vérité, quand elle est atteinte par rapport à l'ami, l'ami est aussi ma vérité. Dans l'ordre pratique. Mais ce n'est pas la vérité tout court, en ce sens que il n'est pas ce qui peut satisfaire pleinement et totalement la recherche de mon intelligence. Mon intelligence est déterminée, spécifiée par la philosophie première, par les principes substance, être en acte. Et l'ami n'est pas adéquat à cela. C'est en ce sens-là que, de fait, la recherche de la vérité m'obligera de dépasser l'ami. Et pour me poser la question, existe-t-il un être premier? Et ce n'est que quand je découvre l'existence de l'être premier que je dis que la vérité me finalise dans cet être premier, que je saisis comme étant la vérité. Vous voyez? Je crois que c'est par rapport à la vérité que nous saisissons le mieux que la vérité que je possède dans ma vie intellectuelle n'est jamais parfaite. C'est la réalité existante au-delà de mon intelligence qui mesure mon intelligence et donc qui la finalise vraiment. Et je retrouverai là la distinction entre entelecheia et energeia. vérité possédée, c'est entelekeia. Et la réalité qui mesure la vérité, c'est energeia. Et c'est cette réalité qui mesure la vérité vers laquelle je tends. Et que je ne peux pas posséder tant que je suis lié au corps. Et ça fait bien comprendre, voyez, cette espèce de drame de Platon. Il faut que l'âme sorte du corps pour découvrir une contemplation parfaite. Une vérité parfaite. Pour Platon, c'est affirmé, j'allais dire, comme un dogme. Pour Aristote, qui est plus réaliste, c'est affirmé comme une quête, une recherche, puisque je ne sais pas ce que sera ma vie au plan philosophique, une fois que mon âme quittera le corps. Mais je sais que c'est cette vérité qui maintiendra en moi l'orientation profonde de ma vie. Je serai tout entier suspendu à cette vérité. Et c'est là où je saisis bien que la finalité que je saisis sur la terre n'est jamais parfaite. Et que je reste toujours dans une recherche. Oui, c'est ce qui aurait de vrai dans Merleau-Ponty. Tant que je suis sur la terre, je suis en recherche de la vérité. Avec un grand V. Je ne peux pas m'arrêter. Et donc je suis toujours en recherche. Et je vois le danger même de l'amitié qui risque de m'arrêter. L'ennemi qui est présent, que j'atteins directement, qui est ma joie, risque de m'arrêter dans cette enquête. Et la parole d'Aristote, qui est héroïque. Platon et la vérité, je les aime tous les deux, mais la vérité plus encore. Parce que dire ça, ça appauvrit l'amitié. Ça relativise l'amitié. Et ça relativise donc la finalité que j'atteins, que je peux atteindre directement. Je la relativise vers une vérité que je n'atteins pas parfaitement et que je recherche. Mais je crois que c'est très fort quand on le dit en toute vérité. Ça prouve que l'homme sur la terre n'a pas de lieu où reposer sa tête. S'il veut être fidèle à cette recherche de la vérité, il ne va pas s'arrêter. Au plan purement philosophique, hein. En toute vérité, c'est ça. On risquerait de s'arrêter à l'ennemi. Et de se reposer à l'ami. Or, on ne peut pas. Il y a l'au-delà. Ça, c'est héroïque. On a besoin de s'arrêter. On est toujours comme un gosse qui a besoin de s'arrêter sur le cœur de sa mère. Et on voit que non. Si on veut que notre intelligence aille jusqu'au bout de son exigence, on doit accepter cette situation de celui qui est toujours en quête de vérité. Et c'est rude. Mais c'est peut-être là où on saisit le mieux cette situation difficile pour la personne humaine, en tant que personne humaine. Et on comprend très bien que la plupart des hommes s'arrêtent en route. l'amitié, voyez, la première finalité, devient à ce moment-là idole. L'ami peut devenir un idole. Sans s'arrêter à lui. J'ai découvert en toi ma vérité. Mais non, jamais, jamais, jamais. L'ami n'est jamais ma vérité. Ma vérité est au-delà de l'ami. Et je saisis donc là ce que Nietzsche a très bien saisi, le drame humain. Il y a quelque chose dans la personne humaine, quand on pousse jusqu'au bout, quelque chose de dramatique. On sent plus ou moins. Je parle au plan purement philosophique, au plan surnaturel, je dirais le drame est dépassé par une personne qui est l'ami et qui est la vérité. Alors c'est la parole sublime du Christ. Je suis la voie, la vérité et la vie. Personne d'entre nous ne peut dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça à votre ami. Je suis pour toi la voie. Oui, ça oui, oui. Oui, ça c'est très vrai. Je parle devant toi. J'ai une petite lanterne. Je parle devant toi, tu ne tomberas pas dans le puits. Non. Je suis la voie, la vérité. Vous ne pouvez pas dire ça. Personne d'entre nous n'est la vérité. Le Christ l'est. Et alors, c'est très important, vous voyez, de bien saisir ces deux aspects qui sont très très forts en nous. L'ami, on a soif de l'ami. Ça ne peut pas être autrement. Notre cœur a besoin de l'ami. Quand on découvre l'ami, on risque de s'y arrêter. La soif de vérité me permet toujours de dépasser l'ami et de considérer que l'ami ne peut pas être mon bonheur absolu. Et que si, de fait, je ne rencontre pas l'ami, c'est peut-être parce que la providence, au point de vue philosophie, voyez, Dieu exige de moi d'aller plus loin. La vérité. C'est la vérité qui va s'imposer. Et c'est ça seulement qui va me faire dépasser le drame. Parce que la recherche de la vérité n'est pas dramatique. Le drame, c'est entre l'ami et la vérité. C'est ça le drame. Au point de vue purement humain, vous voyez, on a de la peine, évidemment, en tant que chrétien, de voir ce que c'est que la vie philosophique. Mais on peut le comprendre, hein, la grâce ne supprime pas la nature. Au contraire, la grâce permet à la nature d'aller jusqu'au bout de ses exigences. Et c'est peut-être, vous voyez, ce qu'il y a d'admirable dans l'éthique d'Aristote. Parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'éthique où on trouve ça. De voir l'amitié et le dépassement d'amitié dans la contemplation. Et ça, ça exige de relativiser l'ami. Et l'ami doit être heureux que son ami le relativise. Ce qu'il est dans la vérité. Oui. Ça montre que l'amour humain, pour être vrai, doit toujours être pauvre. Le jour où l'amour humain n'est plus pauvre, où on veut posséder l'ami, on ne recherche plus la vérité. Et alors l'ami devient idole. Et l'homme n'a pas le droit d'accepter d'être idole. Parce qu'il est à la place de Dieu. Et on saisit bien ça, ce qu'est la personne humaine. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, toute la topique que nous avons fait sur la personne, vous vous souvenez, j'espère, pourrais la reprendre maintenant, dans cette lumière, et on verrait que tout s'explique. Entre autres, Nietzsche, entre autres, Husserl. Combien il y a quelque chose dans la personne, dans la recherche de la personne, qui est à la fois fixe et qui est tout le temps relatif. Alors nous le traduisons-nous dans ce fait que on découvre une finalité. Découvrir une finalité, c'est un repos. L'ami est mon repos. Mais je ne peux pas m'arrêter à l'ami. Je dois dépasser l'ami dans cette quête de la vérité. Et cette quête de la vérité, elle me met sur la route. Aujourd'hui, ça prend tout son sens. Il y a des êtres qui sont sur la route et qui ne peuvent pas s'arrêter. J'en voyais un l'autre jour à Sisteron. Il est extraordinaire. Il est sur la route. Alors, il traduit ça d'une façon très incarnée. Ils sont sur la route. Alors, ils s'arrêtent pendant un mois, deux mois. Mais non. Il doit être sur la route. Alors, traduisons ça spirituellement, c'est qu'on est tout le temps en quête de vérité. Je ne peux jamais m'arrêter. Et c'est vrai, ça. Mais, et c'est là où on voit très bien comment il faut briser un peu ce que la scolastique a dit à propos de la vérité, comme si on possédait la vérité. Non, c'est pas vrai. On est possédé par une vérité cachée qui nous attire et qui nous empêche de nous arrêter à cette vérité formelle, à cette vérité qui est le bien de l'intelligence. C'est le bien de l'intelligence, c'est très vrai, mais c'est un bien qui demande tout le temps d'être dépassé. Et là, la réaction de Heidegger est vraie. Dévoilement constant, constant, constant. Et il faut faire attention. Il ne faut pas à cause de ça supprimer le fait que l'homme possède certaines vérités qui l'aident à dépasser ces vérités. Donc vous voyez, pour revenir à la question, je ne peux pas dire que la vérité est condition sine qua non. La vérité est vraiment le bien de l'intelligence. La vérité formelle, c'est le bien de l'intelligence. Si elle est la perfection et le bien de l'intelligence, elle finalise l'intelligence. Mais comme, de fait, cette vérité que je possède n'est pas la vérité, elle permet à l'intelligence d'aller de dépassement en dépassement, de lumière en lumière, et de me faire vraiment le pèlerin de la vérité. Et je suis pèlerin de la vérité, parce que je ne peux pas m'arrêter. Et je dois toujours aller plus loin, pour atteindre celui qui est la vérité. Mais je ne le sais pas encore. Je ne le saurai que quand j'aurai découvert Dieu. Alors à ce moment-là, je pourrais dire que si Dieu existe, et comme je l'ai découvert qu'il existe, il est la vérité. Et qu'aucun être créé n'est la vérité. Et donc il y a en moi une force plus grande qui est l'intelligence, qui m'oblige de dépasser tout ce que peut représenter de grand dans la vie. Et ce qui m'empêche de pleurer par rapport à l'ami. Parce qu'il y a une force plus grande. La découverte de la vérité et la recherche de la vérité est quelque chose de plus noble et de plus grand que l'amitié humaine. Mais ça satisfait moins mon cœur. Et donc, ça me fait un petit peu un écorché vif. Tandis que l'ami bien comment dans ce que représente l'esprit qui structure la personne humaine, ces deux aspects constants. Et je ne peux jamais, au nom de l'un, abandonner l'autre. Je ne peux pas, au nom de la vérité, supprimer l'ami. Et je ne peux pas, au nom de l'ami, supprimer la vérité. C'est les deux. Alors, ce qui serait très intéressant ici, c'est donc de bien d'abord affirmer que cette recherche de l'amitié, cette recherche de la vérité, n'est pas une condition sine qua non. C'est une finalité. Et la fin n'est pas condition sine qua non. C'est beaucoup plus. Alors, ce qui est intéressant ici, après avoir vu ces deux aspects, c'est de voir comment l'ami et la recherche de la vérité et la possession de la vérité structurent l'esprit, structurent la personne humaine de deux manières différentes et complémentaires. Parce que l'ami que j'ai choisi, qui implique la réciprocité. Il n'y a pas d'amitié sans réciprocité. Il n'y a pas de repos sans réciprocité. Ça permet à l'esprit de se reposer. Se reposer, vous comprenez bien, c'est pas le repos en son épouse. Non, c'est un repos en ce sens que je touche, que j'atteins une véritable fin. C'est le lieu dans lequel je me repose. Mais un repos actif, puisque c'est un don. Je me donne à l'ami. Et l'esprit ne se repose que dans le don. Quand l'esprit ne peut pas se donner, il n'y a pas de repos. Et l'ami devient le lieu, au sens très fort, de son ami. Et donc, l'amitié structure la personne parce qu'elle permet à la personne humaine d'être don, c'est-à-dire d'être toute relative à l'autre. Donc, de dépasser ce qu'il y a dans la personne humaine d'autonomie. L'autonomie ne finalise pas. Je dirais que l'autonomie est une condition sine qua non pour le don. Oui. Mais ce n'est pas une finalité. Et c'est l'erreur constante aujourd'hui, au niveau psychologique, de croire que l'autonomie détermine des structures. Qu'est-ce qui structure la personne? C'est le don. Le dépassement. L'autonomie est condition sine qua non pour qu'il puisse y avoir don. Et c'est là où on voit très bien que la métaphysique est structurée par la substance et la personne n'est pas structurée par la substance. J'avance ça avec beaucoup de points d'interrogation. Mais je crois. Ça explique, vous voyez, cet aspect de séduction du don, de la communication. Ça explique quelqu'un comme Nédoncel qui dit que la personne, c'est être relative à un autre. C'est juste au niveau de la personne, c'est pas juste au niveau métaphysique. Et la finalité structure la personne, on ne peut pas nier ça. Mais encore une fois, alors comprenons bien que cette structure de la personne ne s'oppose pas à l'aspect substantiel. Et assume l'aspect substantiel. Et donc qui fait que cet aspect substantiel, qui peut apparaître au point de départ comme une condition sine qua non, est plus que ça. Donc la substance continue de déterminer. Mais déterminer d'une manière imparfaite, qui demande d'être assumée dans le don. crois que c'est ce qu'on doit dire. Et donc la personne humaine est structurée par sa finalité. Mais cette finalité, n'étant pas parfaite, ne pouvant pas satisfaire l'esprit, la recherche de la vérité va apporter un appel actuel vers l'infini. Et qui met donc l'impossibilité pour la personne humaine de s'arrêter au don. De dépasser le don dans une recherche de la vérité. Qui me met dans l'attitude de passivité. Vous voyez, il y a trois aspects successifs dans ce que représente la structure de la personne. Et c'est important de saisir ce que c'est la structure de la personne. C'est intéressant parce qu'on retrouve trois aspects. Donc, il y a l'aspect de la substance. On ne peut pas nier. On va revenir là-dessus. L'aspect de la finalité, donc le don. Le don personnel. Permet le repos. C'est en me donnant à l'autre que je me peux me reposer. Et puis l'aspect, la quête, la recherche de la vérité. La vérité dans son absolu. Que je n'ai pas encore découvert. Et trois moments de structure de la personne. Alors, la substance qui donne l'autonomie. Je vois que je ne peux pas m'arrêter à l'autonomie. Que l'autonomie demande d'être relativisée par le don. Et comme l'autonomie est relativisée par le don, il y a un danger, voyez, de considérer cette autonomie comme une condition sine qua non. Elle l'est. C'est vrai. Je ne peux être don que si j'ai cette autonomie. Donc c'est bien une condition sine qua non. Mais c'est plus qu'une condition sine qua non. Parce que la substance en réalité est présente dans le don. C'est la personne qui se donne. Il y a un don substantiel. Autrement, il n'y aurait pas de finalité. Et donc, je peux dire que la personne détermine. Tu vois, la substance détermine. Et cette détermination, donc, demeure dans le don. Condition sine qua non pour qu'il y ait don, et elle structure le don. Et le danger, vous voyez, c'est de considérer la substance uniquement comme une condition sine qua non, le sujet, d'où suppression de la substance. Puisque c'est ce qu'on voit. Dans la topique que nous avons fait sur la personne, nous avons vu que, de fait, il y a toute une attitude moderne, actuelle, de dire que la personne ne peut pas être substance. Elle ne peut pas être sujet. Elle ne peut pas être objet, je veux dire, dans leur terminologie. Elle ne peut pas être substance. Parce qu'ils considèrent que c'est uniquement une condition sine qua non qu'il faut laisser tomber. Parce que la condition sine qua non, elle est dépassée. Alors à ce moment-là, je crois qu'il y a confusion entre les deux ici. Entre la condition sine qua non et la détermination. En réalité, la personne implique la substance pour que le don soit substantiel. Et pour que le don soit substantiel. Et c'est vrai que c'est le don qui donne à la personne tout son réalisme foncier et toute son actualité. Et le don personnel est relativisé par la recherche de la vérité. Mais trois moments. Mais trois moments qui ne sont pas trois moments dialectiques, parce qu'on pourrait faire ça. Et la synthèse serait la chute de la vérité. Alors ça a une personne. personne qui ne serait plus, personne qui serait une dialectique. Personne dialectisée, si j'ose dire. En réalité, il n'y a pas d'opposition entre substance et don personnel. Puisque pour que le don personnel existe, il faut qu'il ait substance. Mais il y a une tentation. Si je ramène la substance à l'autonomie, je dirais, mon autonomie m'empêche de me donner. Et c'est vrai que tout être bien structuré a peur d'aimer. Il perdra son autonomie. Et donc, psychologiquement, au niveau du conditionnement, il y a une opposition entre substance et don. Et je peux très bien m'arrêter à cet aspect du conditionnement et dire qu'il y a une opposition radicale entre la substance et le don. Et donc il faut que la substance disparaisse pour que le don apparaisse, dialectiquement parlant. Et qu'il faut que le don disparaisse pour que la recherche de la vérité apparaisse. Alors ça c'est faux de dire ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le don substantiel, que le don personnel assume la substance, et que la recherche de la vérité ne s'oppose pas au don personnel. Parce que le don personnel a quelque chose d'authentique dans le fait que j'atteins une fin réelle, la personne humaine. Je ne peux pas relativiser la personne humaine. Si je relativise la personne humaine, vous voyez, je la supprime comme personne. Mais je peux la dépasser dans la recherche de la vérité, en respectant ce qu'elle est. Parce que je sais que mon ami n'est pas tout. Il n'est pas Dieu. Si mon ami n'est pas Dieu, il n'est pas la vérité. De vérité qui demande d'aller jusqu'au bout. Bon, ceci, c'est pour essayer de comprendre cette structure de la personne. Autonomie, don, et puis recherche de la vérité. Alors, voyez, c'est ici où il faudrait tout de suite regarder ce que Charles Audier dit. Je vais mettre ça en rouge. Ce que Charles Audier dit à propos de la personne humaine. Vous savez, quand il dit que la personne humaine implique un moi fort, et que pour le moi fort, il donne les trois dimensions du moi fort. L'aspect de la sécurité, l'aspect de la valorisation, de l'autonomie. Il donne les trois aspects. Hein. Mon moi personnel est fort dans l'autonomie, dans la valorisation et dans la sécurité. On a vu ça au début, hein. Vous vous souvenez, c'était un petit peu lointain. Il y a des poussières dessus, mais soufflez dessus et ça reviendra. Et ces trois aspects du moi s'oppose et lutte contre les trois limites terribles qui rongent ma personnalité. L'aliénation, alors ça, écrivez ça en verdâtre. La culpabilité. De ma personne, de ma personnalité psychologique, les trois maladies internes. C'est vrai, si je suis angoissé, ma personnalité psychologique est complètement annihilée. Si je suis dans la culpabilité, ma personnalité, et ainsi de suite. Ça, c'est au niveau psychologique. Vous voyez tout de suite que si ce que je dis au niveau métaphysique touche la réalité en montrant le point de vue de la finalité, un au-delà du conditionnement, je rencontre que c'est très vrai. Il faut l'autonomie. Il faut la valorisation. Et il faut la sécurité. Mais c'est assumé, c'est transformé. La recherche de la vérité, c'est ce qui me donne la plus grande sécurité. Le don personnel à l'ami, c'est ce qui me donne la plus grande valorisation. Et comprendre qu'il y a en moi quelque chose de substantiel, c'est ce qui me donne la plus grande autonomie. Vous voyez là, la philosophie montre au psychologue qui reste dans le conditionnement qu'il oublie la finalité. Et donc, il ne montre pas comment je puis acquérir toujours une sécurité plus grande. La vérité vous libérera. C'est sûr. Il n'y a rien de tel pour lutter contre l'angoisse que d'avoir un nous fort. Une intelligence orientée vers la vérité. C'est une intelligence orientée vers la vérité qui vous permet de dépasser les angoisses. C'est un don personnel à l'égard de l'ami qui me donne la valorisation. Et c'est le sens de ma substance assumée dans ma main qui me donne le sens de mon autonomie. Oui, et alors c'est intéressant parce que c'est ces choses-là, vous voyez, qui m'aident à comprendre la vérité, c'est de voir que une recherche de la personne par un point de vue purement psychologique aboutit à ces trois dimensions. Je crois que ça c'est très juste. Ou à ces six dimensions. On verra pourquoi. Et que, au plan philosophique, j'aboutis à ces trois dimensions. L'aspect d'autonomie, l'aspect du don personnel, l'aspect de la recherche de la vérité. Et alors, vous voyez bien que ces trois aspects, l'autonomie, la valorisation, ça c'est le présent. Je suis au niveau psychologique. Au niveau psychologique, le temps est toujours présent. La valorisation, c'est le passé. Et la sécurité, c'est le futur. La recherche de la vérité me permet de dépasser tous les obstacles qui se présentent à moi. C'est très vrai, ça. Un nous, une intelligence qui recherche la vérité, est une intelligence qui me donne une force étonnante. Mais le passé, ça ne m'inquiète pas, grâce à l'ami. L'ami me permet d'être victorieux du passé. C'est très curieux, ça. Et ça, c'est très vrai. Pour quelqu'un qui serait facilement scrupuleux, c'est le dépassement du passé. Et l'autonomie, cet aspect substantiel qui est en moi. Alors vous voyez que si vous supprimez la substance, la tentation de la phénoménologie, vous supprimez toute autonomie. Et vous aboutirez fatalement à une relativité, à un aspect uniquement relatif. Je continue. Ces deux aspects structurent la personne quant à son esprit. Mais la personne humaine implique essentiellement le corps. Pas seulement l'âme. Je ne peux pas faire abstraction du corps dans ma personne. Pas seulement une condition sine qua non. Le corps n'est pas seulement un conditionnement, il est plus, il est essentiel. Et c'est ça qui sera difficile à assumer, ce caractère essentiel du corps. Je l'assume dans les trois manières. Le corps demande d'être assumé par l'aspect substantiel. Le corps demande d'être assumé dans le don personnel. Et le corps demande d'être assumé dans la recherche. Il est présent. On verra, en faisant la philosophie du corps, si je peux vraiment rendre raison de cela. Mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Le corps est présent dans mon autonomie. C'est sûr. J'ai pas d'autonomie sans le corps. Je suis dans l'abstraction, autrement. Une âme séparée, c'est très beau, mais et mon âme n'est pas séparée. Sauf quand je rêve. Et vous rêvez quand vous pensez à une âme séparée. Je suis avec mon corps. Et mon autonomie implique mon corps. Mais le don implique le don du corps, le don personnel. Je peux pas, un don ne peut pas s'abstraire du corps, de la sensibilité. Faisons attention, hein. Là, on mettra des points de vue différents dans le don de l'époux à l'épouse ou dans le don de l'ami. C'est ça qui serait très intéressant à voir là, ici. Il faut le reconnaître. C'est un don différent. Vous voyez, et c'est là où il faudrait traiter, au point de vue métaphysique, le point de vue de l'homophilie, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas ? L'homosexualité. Vous dites que le don implique le corps, donc dans l'ami doit y avoir le don du corps. Et pourtant il faut maintenir le réalisme. Vous voyez, c'est important de saisir là avec beaucoup d'acuité ce que ça représente. Et le point de vue de la recherche de la vérité, on aurait tendance à dire que le corps n'a rien à faire dans la recherche de la vérité. Pas du tout. Donc maintenant que le corps est présent dans cette structure de la personne humaine, est présent en acte, pas comme une condition sine qua non, comme un élément fondamental. Le réalisme doit aller jusque-là. Mais en même temps que je dis que le corps est présent, je vois tout de suite que la personne humaine, en raison du corps, connaît une précarité unique et substantielle à cause du corps. Précarité unique parce que le corps est mon autonomie, elle en prend un grand coup. Il y a la mort. Je ne peux pas traiter de la personne humaine sans parler de la mort. Et ceci parce que le corps fait partie essentielle de la personne humaine. Là, je ne suis pas platonicien. Le corps fait partie du don personnel, précarité, aussi, dans ce don personnel. Pourquoi ? Parce que, justement,